Il y a des dimanches comme ça où c'est toute l'effervescence. On est content et en même temps on vit des choses particulières et tout à coup il faut rebondir sur des situations, ça foisonne de vie. Et puis c'est comme ça, ben, tout à coup on pense à un programme et puis on va dans un sens puis dans un autre. Et puis on annonce des choses et puis il faut réajuster, rien de grave. C'est quand il y a de la vie que c'est comme ça, c'est quand ça foisonne. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on traverse des déserts. Parfois, la vie est sèche, aride. Et je ne sais pas pour vous aujourd'hui si un domaine de votre vie, vous avez l'impression d'être dans un désert. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, votre vie de prière? Votre communion avec le Seigneur, est-ce que tout va bien? Ou est-ce que vous avez l'impression de traverser un désert? Eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle. Il n'y a pas de désert inutile pour quelqu'un qui cherche Dieu. Je le répète, il n'y a pas de désert inutile pour quelqu'un qui cherche Dieu. Et c'est l'expérience qu'a fait un ministre des Finances, un homme qui avait du pouvoir, un homme influent, un homme riche. Mais il se trouvait dans un désert aride. Au point que, comme beaucoup d'hommes dans le même cas que lui, on le qualifiait d'arbre sec. Alors je vais vous lire l'histoire. Et ceux qui ont vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir au livre des Actes, puisqu'on est dans une série sur les Actes, au chapitre 8. Acte 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char !» Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra? Car sa vie a été retranché de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azoth ou Asdod, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte. Je ne vais pas forcément vous parler énormément du contexte aujourd'hui, parce qu'on aura l'occasion de reprendre ce contexte une prochaine fois. Mais il y a quelque chose qui est vraiment étonnant, c'est toutes les descriptions qu'il y a à propos de cet Éthiopien. Et s'il y a autant de descriptions, c'est que ça veut sûrement dire quelque chose, c'est que cet homme, il a sûrement quelque chose à nous apprendre d'une manière ou d'une autre. Reprenons le début. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe, lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » On voit quand même que le contexte où se trouve l'Éthiopien, c'est un lieu désert. Ça nous dit déjà quelque chose de comment est-ce que lui, il est ou comment est-ce qu'il se sent. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourne, assis sur un char, et il lit le prophète Ésaïe. Vous avez vu le nombre de verbes, le nombre d'actions qui concernent ce personnage? Il y a vraiment quelque chose à retirer. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette histoire? Eh bien, si on prend déjà le début, il est éthiopien. L'Éthiopie, à l'époque, c'était pas tout à fait le même lieu géographique que l'on connaît aujourd'hui, c'était plutôt le nord du Soudan actuel. C'était entre Assouan et Khartoum, environ, mais ça représentait environ 1000 kilomètres jusqu'à Jérusalem. 1000 kilomètres à pied, grosso modo, 15-20 jours si on compte 8 heures de pause, par 24 heures. Avec un char, je ne sais pas. Mais puisqu'il lit sur son char, et que Philippe peut entendre ce qu'il dit, c'est que le char y va lentement. Peut-être que ça va au rythme du pas. En tout cas, il faut du temps et il vient de loin. Il est étranger. Est-ce que c'est un problème d'être étranger? Eh bien déjà dans la Bible, il n'y a rien qui montre une connotation négative par rapport à une quelconque couleur de peau. Rien. C'est pas un problème. Mais là où pourrait commencer le désert de cet Éthiopien, c'est qu'il est venu pour adorer. Il est venu pour adorer à Jérusalem, donc à l'endroit du temple, puisque c'est là qu'on vient adorer Dieu, parce que l'œuvre de Jésus vient de s'accomplir, mais on est tellement au tout début qu'il y a encore le temple, il y a encore les sacrifices. Les gens n'ont pas forcément tous compris que Dieu s'est fait proche des hommes. Alors tous ceux qui veulent adorer Dieu, ils doivent aller à Jérusalem au niveau du temple. Mais en tant qu'étranger, il ne peut pas aller plus loin que la cour des païens. Mais s'il vient adorer, c'est quand même qu'il a un cœur pour Dieu. Peut-être que c'est un sympathisant, peut-être qu'il n'est pas juif, mais il sympathise pour la judaïté, pour la religion juive. Peut-être que c'est un craignant Dieu. Ou alors, il s'est converti au judaïsme, et là, il pourrait franchir cette cour des païens. Cet homme, il est ministre de Candace. Ministre. Et Candace, c'est le nom générique pour parler de la reine-mère d'Éthiopie. Donc, c'est quelqu'un qui, hiérarchiquement, au niveau national, est tout en haut. Donc, ce ministre, cet Éthiopien, il est vraiment très, très haut placé dans la nation. Candace, c'est un peu comme Pharaon pour les Égyptiens. Et c'est un petit peu comme César pour les Romains. Donc vraiment, cet Éthiopien, ça commence par la même lettre, cet Éthiopien, il est vraiment tout en haut, il a du pouvoir. Et il vient avec un char. C'est pas juste une planche de bois avec quatre roues. S'il a fait 1000 kilomètres et qu'il peut lire Ésaïe pendant qu'il se déplace, c'est déjà qu'il a eu les moyens de faire ce voyage. C'est lui qui vient adorer, c'est pas Candace, c'est son initiative. Et ça veut dire qu'il a certainement toute une cohorte, beaucoup de personnes qui l'accompagnent. Il doit avoir des vivres avec lui. Il y a des gens qui doivent s'occuper de tout ça, de s'occuper des animaux qui tirent le char. Il est riche. Il a réussi aussi à acheter des manuscrits de la version de la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament traduit en grec. Il est riche. Il est haut placé, il vient adorer, il a un cœur qui cherche le Seigneur, mais il a un immense problème. Il est eunuque. Ce mot eunuque, c'est aussi un peu un nom générique. C'est-à-dire que dans les personnes qui avaient une fonction haut placée, comme surintendant d'un roi, de Pharaon, Potiphar par exemple, Potiphar, il était eunuque. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'était dans sa chair. C'est un mot qu'on utilisait pour parler des hauts dignitaires pour une nation. Certains l'étaient dans la chair, d'autres pas. Mais la plupart, ils l'étaient dans la chair. La plupart des hommes qui avaient cette fonction, ils étaient eunuques, c'est-à-dire qu'ils étaient castrés. C'était une protection pour qu'ils ne s'intéressent pas à des problèmes de mœurs. C'était pour qu'ils soient fidèles, c'est pour qu'il n'ait rien à espérer pour sa propre vie, pour qu'il donne sa vie pour les autres en quelque sorte. Et dans le texte qu'on a, certainement qu'il était eunuque dans sa chair, parce qu'il y a toutes ces précisions. Si ce n'était pas le cas, il y aurait juste marqué qu'il était surintendant ou ministre, ça suffit. Mais non, il était d'une part ministre, d'une part surintendant des trésors et d'autre part eunuque. Cet homme avait été à un moment donné de sa vie castré. Et c'est quoi son problème? C'est quoi son désert? Eh bien, il vient adorer. Et en venant adorer, dans son état physique, il ne peut pas dépasser la cour des païens. Même s'il s'est converti au judaïsme, il ne peut pas aller plus loin. Et s'il ne peut pas dépasser cette cour des païens, si dans l'enceinte du temple, il n'arrive pas à aller plus dans le temple, ça veut dire qu'il ne peut pas aller toucher la présence de Dieu. Par rapport au sacrificateur, dans la loi de Moïse, dans Lévitique 21, je vous lis le verset 18 et un peu plus loin. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camu ou un membre allongé, un homme ayant une fracture de pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a une infirmité corporelle, donc c'est comme s'il est impropre pour aller apporter son adoration, pour rencontrer Dieu, pour avoir un cœur à cœur avec lui. Mais son cœur cherche Dieu. Ça, c'était les sacrificateurs, il n'est pas sacrificateur. Mais ça montre déjà des principes. Seulement si on va dans Deutéronome, alors là, c'est sans appel. Deutéronome 23. Le premier verset. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Point. La porte est fermée. Cet eunuque, il cherche Dieu, il est dans un désert. Il est dans un désert au niveau de sa propre vie, il ne pourra pas avoir de postérité. Il cherche Dieu, il va jusqu'à Jérusalem, il fait 1000 kilomètres pour adorer. Il retourne d'où il vient, autant stérile qu'il est venu, autant sec qu'il est venu. Et pourtant il persévère, et pourtant il lit le prophète Ésaïe. Il est dans un désert, mais il a un cœur ouvert. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter sur son char. Ce qu'on est en train de voir au niveau du cœur de cet eunuque, c'est que non seulement il cherche Dieu, mais il fait preuve d'une humilité qui nous dépasse. Imaginez le gars. C'est le ministre des Finances. Il a du pouvoir, de l'autorité, il est riche, il est sur un char royal quelque part. Il a vraiment des richesses. Et il y a un petit gars avec son bâton, son sac à dos, un pèlerin un petit peu tout plein de poussière qui dit tu comprends ce que tu lis ? Mais qu'est-ce qu'il aurait pu lui répondre ? Moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai fait économie. J'ai fait gestion, j'ai fait sciences politiques, je suis tout en haut moi. Moi je travaille pour Candace et en plus de ça je viens toutes les années à Jérusalem. Je sais lire, regarde je lis en grec, je suis instruit. Et toi est-ce que tu sais lire? Bien sûr que je comprends les mots que je lis. Ça fait 20 ans que je viens à l'église, tu crois que je connais pas la Bible? Vous imaginez un peu ce qui pourrait ce qu'il pourrait dire comme argument juste pour sauver la face. Mais non. Mais non, il dit, mais bien sûr, je reconnais les mots, je sais ce que c'est une brebis, une boucherie, un agneau muet, quelqu'un qui le tond. Je comprends les mots, mais je capte pas. Et si personne ne m'explique, je capterai toujours pas. Viens, explique-moi, j'ai un manque, j'ai un problème, viens. Et il invite Philippe sur son char. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité. Qui la dépendra? Qui en parlera? Qui la décrira? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque est interpellé, il se dit, mais moi aussi quelque part on m'a emmené à la boucherie. Le texte ne nous dit pas à quel moment il a subi cette opération pour qu'il devienne eunuque. Et peut-être qu'il ne s'est pas débattu, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais il y a peut-être quelque chose là qui est en train de lui dire, oh là là, il y a quelque chose qui me parle. Et quand on va plus loin, il est question d'humiliation, de jugement, d'une postérité qui ne viendra pas. Et lui, il sait qu'il n'aura pas de postérité. Alors il demande à Philippe, mais de qui? De qui est-ce que ce prophète parle? Est-ce que c'est de lui-même? Ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre? Et Philippe, il part de là où en est l'eunuque. Il prend ce texte et il se met à lui expliquer. C'est qui cet agneau? C'est quoi ce passage? Ce passage, il vient d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, on en a tellement parlé. Le début de Ésaïe 53, même si je vous lis à partir du verset 3, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. » Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est le passage qui suit que l'eunuque est en train de lire. Et Philippe est en train de lui expliquer, mais il s'agit de Jésus. C'est Dieu lui-même qui était élevé dans les cieux, le Fils du Dieu vivant, qui a été d'accord de prendre un corps d'homme, de partager notre condition humaine, de s'abaisser, de prendre sur lui, puisqu'il était sans péché, nos propres péchés, nos infirmités, nos stérilités, nos déserts, nos manques, nos problèmes, pour les engloutir dans la mort, parce qu'il s'est fait sacrifier comme un agneau. Il a tout englouti dans la mort. Et il a été souverainement élevé par sa résurrection. Et maintenant, il est souverainement élevé au-dessus des cieux. Et il règne sur toutes les puissances. Et il est en train d'expliquer ça. Il est en train d'expliquer ton humiliation, tes meurtrissures, l'infirmité qu'on t'a infligée. Jésus l'a pris sur lui pour que tu ne sois plus dans un désert, pour que tu ne souffres plus de cette stérilité. Si tu mets ta confiance en lui, tu vas faire ce même chemin de ta position élevée. Avec Jésus, tu vas descendre jusque dans la mort. Mais c'est tes infirmités, c'est tes péchés, c'est tes manques, c'est ton désert. C'est là où tu n'arrives pas à aller plus loin. C'est tout ça que tu vas ensevelir avec Jésus. Et tu vas ressusciter avec lui. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que son esprit viendra habiter en toi. Il va illuminer les yeux de ton cœur pour que tu comprennes les choses spirituelles, pour que tu entendes la voix de Dieu, pour que tu marches en nouveauté de vie et tu deviendras fécond. Cette fécondité, elle sera peut-être pas physique. Peut-être que tu seras toujours dans un paradoxe, riche, stérile. Mais tu vas devenir riche de Dieu. Tu vas devenir riche spirituellement. Et tu vas engendrer une descendance spirituelle. Et l'eunuque, il écoute tout ça. Il comprend qui est Jésus. Et il se dit, mais moi je veux. Moi, je veux ce Seigneur. Moi, je veux ce Sauveur qui s'est sacrifié comme un agneau, qui l'a fait de façon volontaire. Moi, j'ai besoin d'une intervention dans ma vie. J'ai besoin que quelque chose change. Je ne peux pas rester comme je suis. Imaginez quelqu'un qui a une bonne situation financière, qui a un bon salaire, un cadre, le cadre d'une entreprise. Chaque année, il décide de partir en vacances avec sa famille. Il habite à La Chaux-de-Fonds, du coup, il part plutôt en Guadeloupe, en République dominicaine. Il va dans les îles, il va où il fait beau, il fait chaud, où la végétation est luxuriante. Il achète les billets d'avion, il n'y a pas de problème, il a les moyens, ils partent, ils vivent un bon moment, ils prennent des photos. Et quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ses photos et c'est plus que des souvenirs. C'était bien. Mais il retourne au boulot, il fait 15 degrés en plein mois d'août, rien n'a changé. Sa vie n'a pas changé, c'était bien ce pèlerinage à Jérusalem. Mais pour l'eunuque, tout à coup, il y a une rencontre. Tout à coup, il y a une intervention, la providence de Dieu. Et quand est-ce que cette providence arrive? Sur un chemin désert, en plein désert. Il n'y a pas de désert inutile pour quelqu'un qui cherche Dieu, parce que Dieu l'entend et Dieu intervient. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Providence. Un oasis, un bassin, un réservoir, on ne sait pas. Mais il y a de l'eau. Ça, c'est les trucs de Dieu. Quand les trucs impossibles, tout à coup, deviennent possibles. L'oasis dans le désert. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche? Je suis éthiopien? C'est ça qui pourrait empêcher? J'ai une infirmité dans ma chair, c'est ça qui pourrait empêcher? Je ne suis pas juif, c'est ça qui pourrait empêcher? Qu'est-ce qui empêche? Si Jésus, il a pris tout ça en lui, est-ce que ce sont mes imperfections? Est-ce que c'est mon indignité? Est-ce que ce sont mes péchés? Est-ce que c'est ma condition sociale? Est-ce que c'est tous les schémas que je me fais dans ma tête? Est-ce que c'est mon intellect? Mes raisonnements? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que je ne sois baptisé? » En posant cette question, il est en train de dire, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de bénéficier de la grâce du Seigneur. Rien. Puisque justement, c'est pour mes problèmes qu'il s'est sacrifié et qu'il m'a sauvé. C'est une confession de foi. Alors Philippe et l'eunuque descendent dans l'eau et l'eunuque se fait baptiser. Et quand il ressort de l'eau, il est tout joyeux. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe, lui aussi, il poursuit sa route. Il ressort de l'eau tout joyeux. Et il ne se rend pas compte qu'il vient, sans le savoir et sans le vouloir, d'accomplir une prophétie. Parce que quand il remonte sur son char, sûrement qu'il reprend le livre d'Ésaïe, et maintenant, il le lit en comprenant ce qui s'est passé. Et il continue sa lecture. Puis tout à coup, même si les chapitres n'étaient encore pas mentionnés à cette époque-là, il arrive au chapitre 56. Par exemple, au hasard, au verset 3. « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison et dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice, leur louange, adoration, seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle, celui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. L'eunuque fait partie de l'assemblée de Dieu, des enfants de Dieu, de toutes ces nations qui reviendront au Seigneur. Et en plus de ça, il a commencé d'accomplir la prophétie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit ? On le lit au début du livre des Actes, justement. Au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance » du premier chapitre, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et à l'époque, l'Éthiopie était considérée comme les extrémités de la terre. Cet eunuque éthiopien est les prémices de l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. La grande évangélisation de l'Éthiopie, elle a plutôt eu lieu dans les années 300. Mais certainement que lui, tout joyeux et transformé, a déjà amené les prémices. Il a déjà commencé à avoir une postérité spirituelle. Tout comme Abraham a une postérité naturelle et spirituelle, eh bien lui, il n'a pas de postérité naturelle, mais il en a une naturelle, spirituelle, pardon. Cet eunuque, il est complètement transformé parce qu'il a fait ce mouvement de descente et de montée, parce qu'il était dans un désert et qu'il cherchait Dieu, et parce que Dieu a fait venir son intervention juste là, dans le désert. Il n'y a pas de désert inutile pour quelqu'un qui cherche Dieu. Alors ma question ce matin, est-ce que quelqu'un se sent dans un désert spirituellement? Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'une intervention divine? Est-ce que quelqu'un aurait besoin qu'il se passe quelque chose, un déclic, pour une révélation ou pour une vie de prière féconde? Est-ce que quelqu'un aurait besoin de rencontrer le Seigneur et d'y dire, mais ok, j'ai compris aujourd'hui, je te donne ma vie. Si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces cas, que vous avez besoin d'une intervention de Dieu dans un désert, je vous invite à vous lever. Si vous ne pouvez pas vous lever, mettez votre main sur votre cœur, faites un geste que le Seigneur saura reconnaître, que vous soyez ici ou à la maison. Et on va prier. Et je vous invite à prier avec moi. Mettez vos mots sur la prière. Mettez vos mots, priez, dites au Seigneur de quoi vous avez besoin. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci parce que tu es descendu de ton ciel. Tu es descendu, tu es venu partager notre condition et tu es allé jusqu'à te sacrifier sur la croix. Tu es mort, tu as subi la mort de la croix, tu as englouti tous nos péchés, tu as englouti mes péchés, mes malédictions, mes peurs, mes manques, mes échecs, mes stérilités, mes déserts. Mais tu en as triomphé parce que le Père t'a ressuscité par la puissance de sa force. Alors aujourd'hui, Jésus, je te demande une intervention. Père, dans le nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, je te demande une intervention. Je te demande une intervention dans ma vie. Je te demande une intervention dans la vie de mes frères et sœurs qui sont là. Je te demande, Saint-Esprit, maintenant de te déverser. Crée les circonstances où tu vas rencontrer les cœurs. Crée les circonstances. Interviens dans les déserts. Que ce soit des sources d'eau maintenant qui jaillissent. Que ce soit un désert qui commence à être fertilisé et qu'il devienne fécond. Pour les personnes qui ont une prière sèche, une vie de prière qui ne porte pas de fruits, je te demande, Seigneur, de les émonder comme toi tu sais le faire pour que ces fruits viennent avec abondance. Je te demande d'ouvrir des yeux, ouvre des yeux spirituels là où il y a de l'obscurantisme, là où il y a des yeux qui sont fermés, là où il y a des obstacles qui empêchent ta présence de visiter les cœurs, de visiter les âmes. Je te demande, Jésus, de venir visiter par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit descende, viens répondre aux prières. Seigneur, viens, dites au Seigneur que vous avez besoin de lui, accueillez sa présence, dites-lui, mais viens Jésus, viens par ton Saint-Esprit, remplis-moi, j'ai besoin d'être rempli jusqu'à la plénitude, j'ai besoin que tes sources d'eau viennent me rafraîchir, rafraîchis mon âme, restaure mon âme, Saint-Esprit, restaure mon âme. Restaure mon âme, ou induis ma tête, que ma coupe déborde. Viens par ton onction. Brise mes chaînes, brise mes chaînes. Viens, délivre-moi, délivre-moi. Viens à mon secours, viens à mon secours, je veux te suivre. Je veux t'appartenir en entier. Je veux pas qu'il y ait des choses qui te fassent obstacle. Je veux dire, je veux pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Jésus, Jésus, sois formé en moi, prends toute ta place en moi. Viens, remplis-moi encore de ton esprit, remplis-moi encore de tes révélations. Viens et glorifie-toi, que ma vie soit à la gloire et à la louange de ton nom. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Parce que tu interviens, c'est toi qui connais le jour, l'heure, l'instant, le lieu, mais tu interviens dans le désert. Mon désert n'est pas inutile. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi à te chercher de toute ma force, à frapper, à demander, à chercher, à fouiller, jusqu'à ce que tu te révèles à moi. Montre-moi, Seigneur, aujourd'hui je décide de te chercher. Je prends l'engagement de te chercher. Trouve-moi, Seigneur, et que moi je te trouve. Viens à ma rencontre. Jésus, Jésus, c'est à toi que je regarde. C'est sur toi que je fixe mes regards. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu es un. C'est toi que je reconnais comme mon Dieu. Je te bénis et je te choisis. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ta paix se dépose sur les cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.